Bienvenue dans un nouvel épisode de mon journal d'un dirigeant. Aujourd'hui, on va parler de culture d'entreprise, sujet ultra important. Que tu sois dirigeant ou que tu sois manager, selon les cas, tu pourras appliquer ce que je vais te dire à ton entreprise, si tu es dirigeant, ou à ton équipe, si tu es manager, parce que ça marche aussi d'avoir une culture d'équipe. Donc, j'aurais pu aussi appeler cet épisode « La meilleure culture d'équipe ». Alors, on me demande souvent quels sont les éléments d'une bonne culture d'entreprise. C'est-à-dire, c'est quoi la culture d'entreprise idéale? Et en fait, moi, je réponds, il n'y a pas de culture d'entreprise idéale, elle dépend du dirigeant, elle dépend du manager, etc. Mais je dirais que c'est un peu court comme réponse. Donc, en fait, je vais donner une réponse un petit peu plus fouillée, en quatre parties. Première partie, je vais te dire que la bonne culture, c'est celle qui t'oblige pas à mentir. La deuxième partie, c'est la bonne culture, c'est celle qui génère des performances. La troisième partie, je vais quand même te donner des fondamentaux qu'il faut connaître quand on veut créer la meilleure culture pour son équipe ou son entreprise, parce qu'il y a quand même des fondamentaux. Et dans ma quatrième partie, je vais te donner des conseils pour savoir comment créer ta culture. Et sans casser le suspense, je vais surtout te dire qu'il faut partir des comportements de ton équipe. Et voilà, moi j'ai une méthode particulière pour le faire que j'ai développée dans une formation qui s'appelle Crée ta culture, CTC, Crée ta culture, que tu peux retrouver sur le site web. Si tu trouves pas, tu m'envoies un mail ou tu envoies un mail à Adélie. Donc mon mail c'est cedric@outildumanager.com et le mail d'Adélie c'est adélie@outildumanager.com. Première partie. La bonne culture, c'est celle qui ne t'oblige pas à mentir en tant que dirigeant ou en tant que manager. C'est une question qu'on m'a pas mal posée au début, qu'on me pose plus tellement d'ailleurs, je sais pas pourquoi. On me demande s'il faut savoir mentir pour être un bon entrepreneur ou être un bon manager. Alors moi je sais pas, moi je suis pas un bon menteur, je le dis quand même. Et en fait ma réponse c'est, comme dans la vraie vie, il faut mentir le moins possible. Alors pourquoi je dis pas « il faut jamais mentir » ? Parce que c'est débile. Dans la vraie vie, si un tueur de petites filles te demande où est cachée ta fille, son enfant, je pense que tu vas lui mentir. Voilà. Donc il y a des cas, oui, où on va mentir. Parce que c'est dans l'intérêt général, ou parce que on a en face de soi quelqu'un à qui on peut pas dire la vérité. Donc dans la vraie vie, comme dans l'entreprise, ça arrive. Mais la règle générale, quand même, ce que je voudrais dire, c'est que moins on ment, mieux on se porte. Pourquoi? Parce que moins on ment, plus on affronte la réalité. C'est toujours plus facile de mentir que d'affronter la réalité, mais c'est toujours plus productif d'affronter la réalité que de mentir. Donc, moi, je choisis toujours la voie, peut-être pas la plus facile, mais la plus productive. Donc, quand tu es tenté de mentir pour pas affronter la réalité, bah, il y a zéro choix à faire, c'est il faut affronter la réalité. Et puis, moi, je connais pas mal de... J'ai été confronté à pas mal de dirigeants qui sont des menteurs. J'en ai eu même dans mon environnement proche. Et en fait, j'ai toujours trouvé qu'ils avaient une vie très très compliquée, beaucoup plus compliquée que la mienne. Moi, je mens le moins possible parce que je suis pas un bon menteur. Mais en fait, je pense que c'est pas tout à fait ça. C'est que je préfère avoir une vie simple. Et puis voilà, je trouve que c'est plutôt sain de pas mentir. Donc voilà ma réponse générale. Un dirigeant n'est jamais obligé de mentir, mais ça ne veut pas dire qu'ils doivent être complètement transparents. Un manager, c'est pareil. Tu as le privilège, en tant que dirigeant et en tant que manager, de pouvoir dire à ton collaborateur « je ne peux pas répondre à cette question » ou « je ne veux pas répondre à cette question ». Moi, ça m'arrive souvent de dire « si je vous répondais, je vous mentirais, donc je ne vous mens pas ». Ou bien, quand c'est trop simple, de dire « joker, je réponds pas ». Ça me permet de pas mentir, en fait, de pas dire. Voilà. Mais alors, pourquoi je parle du mensonge? Parce qu'on était parti pour parler de la culture. Parce que je pense que, dans le monde d'aujourd'hui, dans le marché actuel tel qu'il est structuré, là où le mensonge fait le plus de dégâts, c'est dans le domaine de la culture d'entreprise. Une des raisons fondamentale de la friction de communication, des démissions, des licenciements, etc. C'est quoi? C'est le décalage qui existe entre ce qui est vécu par les salariés, en termes de vie quotidienne dans l'entreprise et ce qu'on leur a promis en termes de culture d'entreprise quand ils sont rentrés dans l'entreprise. Ce décalage, il est avant tout dû à un manque soit de franchise, soit de discernement de l'entreprise ou des gens qui représentent l'entreprise, la direction de l'entreprise, sur la vraie culture de leur entreprise. La friction la plus importante aujourd'hui et le mal-être le plus important et la source de désengagement la plus importante des salariés aujourd'hui dans les entreprises, c'est le décalage entre ce qu'ils vivent au quotidien et ce qui leur a été promis, ou la manière dont l'entreprise communique ou ne communique pas sur sa culture d'entreprise. C'est cette espèce de marché de dupes qui fait que ça fonctionne pas et qu'il y a du désengagement, etc., etc. Et je dis que c'est dû à un manque de clairvoyance ou de franchise de la part de la direction ou des managers. Et je vais prendre, pour exemple, le recrutement. En tant que recruteur, quand tu as une entreprise, une culture d'entreprise ou une culture d'équipe bien définie et que tu es capable d'en parler en donnant des exemples très concrets de la manière dont on se comporte dans ta boîte ou dans ton équipe, tu as une bien meilleure probabilité que la recrue que tu es en train de recruter sache se positionner avant d'entrer dans ton entreprise. Si tu es franc, clair et que tu as zéro mensonge sur ces aspects-là, que tu es capable de donner des exemples en disant, par exemple, la dernière fois, on a eu tel problème, on l'a géré de telle manière parce que ça correspond à notre manière de faire dans cette boîte, etc., et que tu es franc et que tu es clair là-dessus, bah la personne que tu es en train de recruter, ton candidat, il sera capable de se dire, ouais, une boîte comme ça, j'ai envie d'y aller, ou j'ai pas envie d'y aller. Et donc, il pourra refuser le poste parce qu'il ne se reconnaît pas dans ta manière de travailler. Ou en tout cas, s'il accepte le poste, il pourra pas ensuite te dire, bah attends, ah ouais, c'est comme ça que ça se passe, mais c'est horrible, parce que en fait, quand tu discutes avec les gens qui quittent des entreprises ou qui font un truc encore pire, qui est qu'ils ne quittent pas l'entreprise, mais ils font le minimum pour pas se faire virer, tout en critiquant. En fait, c'est des gens qui ont le sentiment de s'être fait avoir. C'est des gens qui ont l'impression que leur poste, en fait, finalement, c'est un poste un peu de voilà, et que ils y trouvent pas leur compte, etc. Mais s'ils étaient honnêtes, ils se diraient peut-être, bah ouais, mais je savais qu'en entrant dans cette boîte, c'était comme ça parce qu'on me l'avait dit. Si c'est pas le cas, c'est de la faute de l'employeur. Si c'est le cas, c'est de leur faute. Et de côté du recruteur, à partir du moment où toi, tu as une culture d'entreprise bien claire dans ta tête, qui est la culture réelle de ton entreprise, pas la culture que tu aimerais avoir dans ton entreprise, qui est la culture réelle dans ton entreprise, tu vas savoir interroger et cuisiner ton candidat bien mieux, parce que tu auras aucun mal à repérer des anecdotes dans son parcours et de lui poser les bonnes questions qui vont te renseigner sur sa manière de faire. Et donc sur sa capacité à intégrer ta culture d'entreprise. Parce que tu pourras toujours évaluer le profil du mec, son intelligence, tu pourras toujours avoir ses diplômes, ses compétences, tu pourras toujours même avoir ses chiffres, éventuellement, voilà, j'ai développé le chiffre d'affaires, j'ai multiplié par deux, etc. Et c'est super intéressant, et ça fait partie de ce qui est super intéressant quand tu recrutes quelqu'un. Mais ce qu'il faut absolument que tu aies aussi, c'est comment il a réussi à obtenir ses performances. Parce que s'il l'a fait en violant systématiquement toutes les valeurs que toi tu as développées dans ton entreprise, eh bien tu ne veux pas le faire rentrer dans ton entreprise. Et la manière dont tu vas détecter ça chez lui, c'est pas en lui disant quelles sont vos valeurs, et puis le mec te dit ah bah l'honnêteté, le dépassement de soi, etc., etc. Tout le monde dit ça. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière. Ok, c'est ça vos valeurs. Alors expliquez-moi par exemple quel comportement correspond à telle valeur. Ou mieux. Moi, je fais pas comme ça. Moi, je dis, bah tiens, c'est super. J'ai une question que je pose systématiquement en entretien. C'est quoi votre meilleur souvenir professionnel? Ah, bah c'était quand j'étais dans telle boîte. Oui, mais moi, ce que je vous demande, c'est racontez-moi, comme si vous racontiez une histoire à quelqu'un, comment vous avez réalisé ce que vous estimez être le meilleur achievement, la meilleure performance, la meilleure réalisation dans votre carrière. Et dites-le-moi sur un mode « je raconte ». Et là, la manière dont la personne va vous le raconter, c'est ce qui va vous permettre de vous dire « tiens, voilà, ça c'est son comportement, il fait plutôt comme ça, donc je dis n'importe quoi, il travaille plutôt collectivement, ou bien il prend plutôt son temps, ou bien il est précis, ou bien au contraire, c'est quelqu'un qui fonce et il réfléchit après, etc. » Et de ça, on va pouvoir progressivement basculer sur c'est quoi son mode comportemental en général. Et du coup, c'est est-ce qu'il sera capable de s'intégrer dans ma culture d'entreprise que je connais parfaitement. Et je la connais parfaitement parce que je l'ai formalisée. Et en fait, beaucoup d'entreprises oublient complètement cet aspect lors de l'entretien. Ou pire, elles l'oublient pas, mais elles mentent. C'est-à-dire que en fait, c'est pas vraiment un mensonge, mais si, c'est un mensonge, mais c'est un peu de répéter bêtement la culture d'entreprise telle qu'elle est décrite dans les documents officiels ou affichée sur les murs. Vous avez vu chez nous, nous sommes une entreprise qui place l'honnêteté en haut, avant toute chose, qui respecte les salariés, patati patata. Ça veut rien dire, parce que qu'est-ce que ça veut dire respecter les salariés, premièrement? Et deuxièmement, est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que si je vais interroger tes collaborateurs, ils vont tous me dire qu'ils se sentent très respectés dans ton entreprise. Et donc, si tu fais ça, eh bien, ta recrue, elle va se retrouver à essayer d'intégrer une entreprise, avoir une expérience de travail qui est totalement différente de ce qu'elle pensait retrouver, et donc elle va pas rester. Et donc, c'est là où je dis qu'en fait, finalement, le truc primordial à propos de la culture d'entreprise, c'est pas d'avoir la meilleure culture d'entreprise possible. Parce qu'en fait, ça veut rien dire. Parce qu'en fait, Amazon, qui est une des plus performantes entreprises mondiales, elle a pas du tout la même culture d'entreprise que Apple. Et que Tesla. Je prends des exemples américains, je suis désolé, mais je pourrais dire le groupe LVMH, je pourrais dire plein de choses comme ça. Quand tu rentres chez Amazon, tu sais que ça va être l'enfer. Et pourtant, ça marche. Donc, ce qui est important avant tout, après, je vais quand même te donner des pistes, mais ce qui est important avant tout, c'est que tu sois capable, en tant que dirigeant ou manager, de décrire la culture actuelle de ton entreprise ou de ton équipe, que tu sois capable de décrire réellement ce qu'elle est à travers les comportements qui ont lieu dans ton équipe, et éventuellement, d'ailleurs, de dire aussi comment tu voudrais qu'elle évolue. Et c'est pas que pour le recrutement, c'est aussi pour tes collaborateurs que c'est important. Parce que de la même manière, tu dois aider tes salariés à comprendre dans quelle culture d'entreprise ils évoluent, et en décrivant la culture que tu voudrais instaurer, déterminer s'ils vont être toujours adaptés ou si eux-mêmes ils doivent changer des choses dans leur comportement. Et en fait, ce qui va faire que ton entreprise est ultra performante, c'est pas tellement la culture de l'entreprise. Et c'est ça le plus important à comprendre. C'est l'adéquation entre la culture de ton entreprise et les aspirations des personnes qui en font partie. C'est ça qui va faire que c'est la bonne culture d'entreprise. Et ce qui est formidable quand tu réussis ça, c'est que tout le monde est beaucoup plus heureux, beaucoup plus productif, beaucoup plus performant, et les gens vont trouver des tas d'occasions de se développer personnellement et harmonieusement dans un environnement qui leur correspond. Donc, premier point, le plus important, ce qui compte, c'est pas d'avoir la meilleure culture d'entreprise possible, c'est d'avoir une bonne équivalence, on va le dire comme ça, entre la culture de ton entreprise actuelle et les aspirations de tes collaborateurs en termes de culture d'entreprise. Si tu réussis ça, bah en fait, tu as la bonne culture d'entreprise parce que tout va être aligné. Et c'est pour ça que je dis, la bonne culture, c'est celle qui ne t'oblige pas à mentir en tant que dirigeant. Deuxième aspect d'une bonne culture d'entreprise, évidemment, c'est celle qui génère des performances pour l'entreprise et plutôt des performances à long terme. Moi, je suis pas là pour déterminer ta culture d'entreprise et te dire que il faut avoir telle ou telle culture. Je pense vraiment, 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 je le disais tout à l'heure, que de multiples cultures d'entreprise peuvent cohabiter sur un marché en produisant des résultats vus de l'extérieur, qui sont identiques avec une bonne expérience client. Tu peux avoir une boîte où on travaille maximum 7-8 heures par jour, où les gens ont une vie très équilibrée en termes temporels entre leur temps de travail et leur temps de repos ou leur temps privé, qui est portée par des processus hyper carrés, dans laquelle les rôles de chacun sont très délimités, dans laquelle peut-être on communique peu sur sa vie personnelle, etc. Par contre, on fait son travail avec une fiabilité de métronome, et puis on rentre chez soi le soir avec simplement le plaisir du travail accompli, etc. Puis tu peux avoir, sur le même marché, une autre entreprise où c'est le chaos permanent, où on s'éclate comme des malades avec des challenges de fou, en réussissant à la force du poignet, en s'investissant à mort, en travaillant le soir, le week-end, etc., et où on parvient à relever des défis complètement cinglés. Et en réalité, ces deux entreprises, elles vont produire des performances, et des performances dans le long terme. Elles vont être très rentables, elles vont avoir plein de perspectives formidables à proposer à leurs salariés, à partir du moment où les salariés qui composent ces entreprises sont d'accord et correspondent à cette culture d'entreprise. Ce qui va faire que les deux vont réussir, c'est ça. T'as plein de gens qui sont rentrés, je sais pas si t'as lu le bouquin la biographie d'Elon Musk, mais franchement, quand tu lis comment ça se passe dans sa boîte, comment les gens se font virer après avoir fait quasiment un burn-out, etc., tu peux te dire, c'est l'enfer sur Terre. Et pourtant, quand t'interroges les gens après leur petite carrière chez Tesla, pour rien au monde, ils réécriraient l'histoire. Ils estiment que c'était un moment professionnel formidable, oui, qui les a un peu amochés, mais c'était formidable. Et c'est tout, c'est comme ça. C'est pas forcément ce que tu veux dans ta boîte, ou c'est peut-être ce que tu veux, mais peu importe. Ce qui compte, c'est que le marché, il soit clair. D'ailleurs, moi, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai jamais voulu fusionner deux de mes sociétés, qui pourtant travaillent sur le même marché, avec les clients, les mêmes clients, enfin quasiment les mêmes clients, etc. Bon, il y avait une histoire de métier, il y en a une qui vend plutôt du consommable et l'autre qui vend plutôt des machines. Mais surtout et avant tout, parce que ces deux boîtes, elles ont des cultures différentes. Et franchement, vraiment, aujourd'hui, je saurais pas te dire s'il y a une culture qui est meilleure que l'autre. Je crois pas qu'il y a une culture qui soit meilleure que l'autre dans chacune de ces sociétés dont je suis quand même le propriétaire. Elles ont chacune leur culture, elles ont chacune leur... Alors, tout est améliorable dans chacune des cultures, mais franchement, je saurais pas te dire, non, mais en fait, il y en a une, très clairement, au niveau culture, c'est mieux. Mais non. C'est pas les mêmes personnes, c'est pas la même manière de faire les choses, et les deux fonctionnent. Dans les deux cas, les gens, ils sont plutôt heureux, les clients sont satisfaits, l'actionnaire aussi. Mais je pense que si je fusionnais, il y aurait beaucoup d'incompatibilité entre les deux, et si je voulais transférer un salarié d'une société à l'autre, je suis pas sûr qu'il se sentirait très très bien. Et donc, ce qui compte avant tout, c'est que les salariés qui soient dans ces entreprises n'aient pas le sentiment d'un mensonge entre ce qu'on leur a permis comme culture d'entreprise. Alors après, honnêtement, une fois que j'ai dit ça, j'ai bien sûr mon avis, j'ai bien sûr mes préférences en tant que dirigeant, même actionnaire, parce qu'il y a des cultures qui sont plus risquées que d'autres. Et oui, puis j'ai oublié de dire un truc, c'est que parfois, la culture, elle est impactée par le marché sur lequel on évolue. C'est-à-dire que dans les deux cultures diamétralement opposées que je t'ai proposées, il y en a peut-être certaines qui vont être meilleures sur certains marchés que d'autres. Mais c'est pas sûr. Moi, j'ai, en particulier, je te le dis, dans mes boîtes, finalement, les cultures sont assez éloignées et pourtant, on est à peu près sur des marchés similaires. En fait, en tant que dirigeant et actionnaire, ce que je me suis fixé comme mission, c'est que la culture de mes entreprises soit conforme à mon éthique du travail. Ça, c'est important. J'ai des limites, etc. Et donc, les cultures de mes boîtes, c'est pas possible qu'elles dépassent les limites que je me suis fixé en termes d'éthique. Mais c'est presque la seule limite. C'est-à-dire que finalement, à l'intérieur de ces limites que j'ai fixées, il y a tellement de marge de manœuvre que ce qui compte avant tout, c'est que je connaisse très très bien les cultures des deux boîtes, et que donc, quand je recrute quelqu'un ou quand je juge quelqu'un par rapport à ses comportements dans la boîte, je me trompe pas de culture d'entreprise. Troisième partie, il y a quand même des incontournables sur la culture d'entreprise. Il y a des critères qui permettent peut-être de cartographier la culture. Alors, côté entreprise, moi, j'ai deux piliers, hein. Je pense qu'une entreprise, elle doit s'efforcer de maximiser la performance et la rétention. La performance, ben oui, c'est les résultats, ce qu'elle est capable de faire, ce qu'elle est capable de démontrer sur le marché aux clients. Ça, c'est la partie performance. Et puis, la rétention, c'est tout ce qui est attirer les bons talents dans l'entreprise, garder les bons, pas forcément garder les moins bons, et fidéliser ses employés. C'est-à-dire, globalement, je pense que pour obtenir du résultat, il faut que les personnes se sentent, j'arrête pas de le répéter depuis le début de cet épisode, se sentent bien dans leur poste. Et la rétention, c'est aussi de se dire que si on n'arrive pas à retenir les talents, déjà, si on n'arrive pas à les attirer, déjà, c'est embêtant, mais si on n'arrive pas à les retenir, on dépense un pognon dingue et une énergie folle à re-recruter tout le temps en permanence, et que ça, c'est un peu catastrophique. Sauf, c'est parfois nécessaire dans des domaines où, je dirais, la techno évolue tellement vite que oui, il faut qu'il y ait quand même un turnover, mais en tout cas, remplacer des gens parce qu'ils se sentent pas bien dans la boîte, ou qu'on n'arrive pas à les retenir, c'est embêtant parce que là c'est une dépense, et puis ça veut dire qu'il faut recréer en permanence des courbes d'apprentissage. Donc voilà, les deux critères que je dirais qu'il faut maximiser à travers une culture d'entreprise, c'est résultat, rétention. C'est aussi d'ailleurs les deux objectifs principaux d'un manager, d'obtenir du résultat de la rétention dans son équipe. Mais une fois que j'ai défini ces deux critères, je peux encore une fois imaginer des entreprises super différentes qui vont mettre plutôt l'accent sur le R1, les résultats, ou sur le R2, la rétention. On peut imaginer une entreprise qui met le curseur à fond sur la performance, qui attire que des individus extrêmement individualistes sur leur carrière, et donc qui a un turnover assez élevé. Ça définit une entreprise complètement différente que celle qui sera fortement axée sur la rétention et qui va capitaliser à la fois sur l'expérience spécifique des personnes qu'elle a réussi à attirer, parce que sur son marché, c'est ça qu'il faut, des gens qui connaissent bien depuis longtemps, et qu'elle doit garder, et sur des processus qu'elle a mis en place pour faire en sorte que la performance soit là, quelle que soit la personne qui exécute le processus. Donc tu vois, côté entreprise, je dirais il y a deux critères, et tu peux te poser la question de dire, bah chez nous c'est plutôt la performance dont on parle tout le temps, ou c'est plutôt la rétention sur laquelle on fait le plus d'efforts. Et puis, après, ça c'est côté entreprise, après côté salarié, il y a aussi des incontournables, qui font qu'un salarié va être motivé. J'en ai parlé il y a pas longtemps sur un podcast, un épisode, une interview que j'ai fait sur un spécialiste du bonheur au travail, on pourrait le dire comme ça, et qui disait en fait que lui, il a sa propre entreprise d'ailleurs, il fondait en fait son action de manager sur trois piliers, sur lesquels à peu près tous les chercheurs sont d'accord, qui sont les pieds de la motivation chez un collaborateur. Alors, juste, je précise, la motivation, elle est beaucoup plus efficace si elle est intrinsèque, c'est-à-dire ressentie par le collaborateur, générée par le collaborateur, plutôt que quand elle est extrinsèque, c'est-à-dire générée par des primes, des avantages, etc., etc. J'en ai déjà parlé souvent. Ce qui va fidéliser le plus quelqu'un, c'est le bonheur qu'il éprouve à travailler, beaucoup plus que tout ce que tu pourras mettre en termes d'incentive. Bref. Et donc, il y a trois piliers pour que quelqu'un se sente vraiment intrinsèquement motivé par un job. Premier pilier, c'est l'autonomie. Ça veut dire que la personne, elle aime bien avoir une forme d'autonomie, c'est-à-dire de sentir qu'elle n'est pas juste un exécutant sans aucun pouvoir de décision, etc. Ça ne veut pas dire qu'elle est totalement autonome, etc. Et encore une fois, à chaque fois, c'est un curseur que tu vas mettre. Donc, premier aspect, l'autonomie. Je suis responsable je prends des décisions. Donc, si j'ai un poste comme ça, c'est un poste qui va plutôt me motiver et m'inciter à rester et à être performant. Deuxième critère, la compétence, c'est-à-dire je suis dans ma zone de compétence, première chose, et en plus dans cette entreprise, j'augmente ma compétence. Donc il y a du développement personnel derrière le critère compétence. Et troisième pilier, ce que les chercheurs appellent l'affiliation, que nous on pourrait appeler l'appartenance, je fais partie d'un groupe de personnes, d'une communauté, où je me sens bien, où je suis apprécié, où je suis aimé, et dont je respecte les membres. Donc ça, c'est les piliers fondamentaux côté salarié. Autonomie, compétence, affiliation. Et donc, même si ces piliers sont fondamentaux, même si on voudrait tous les mettre au maximum au niveau curseur, eh bien, le degré que tu vas mettre dans chaque pilier, c'est ton choix de dirigeant ou de manager, et on pourrait même évaluer nos cultures en notant chacun de ces cinq piliers. Donc je rappelle les cinq piliers. Les premiers, ils concernent plutôt ce que demande l'entreprise aux collaborateurs, ou plutôt ce que fait l'entreprise pour les collaborateurs. Est-ce que l'entreprise, elle va être plutôt orientée, ou plutôt comment l'entreprise va orienter les collaborateurs pour qu'ils génèrent de la performance, du résultat et de la rétention. Ça, c'est côté entreprise. Et est-ce que le collaborateur, il est dans un environnement où on lui propose de l'autonomie, de la compétence et de l'affiliation? Voilà comment on pourrait déterminer les critères incontournables, d'une culture. Et si tu as tous les critères qui sont à fond, tu as une entreprise avec une formidable culture d'entreprise. Je pense qu'en fait, on n'a jamais tout à fond. Et surtout, on n'a pas la même manière d'atteindre chacun de ces piliers. Quatrième partie, mon conseil. Comment on fait, donc, un, pour comprendre, décrire et savoir quelle est la culture de notre entreprise, et donc, et de manière objective, pas juste en mettant des mots qui correspondent à rien, et donc, à savoir vers quoi on veut aussi diriger la culture de notre entreprise, premièrement, et comment on atteint justement le maximum au niveau R1, R2, au niveau autonomie, compétences et affiliation. Parce que maintenant que je t'ai dit tout ça, tu as sûrement envie de créer ta culture d'entreprise en listant les valeurs qui semblent le plus importantes. Et en fait, je pense que c'est pas la bonne méthode. C'est ce que j'explique dans ma formation CTC, Crée ta culture. Parce qu'en fait, si tu fais ça, tu commences par mentir, direct. C'est-à-dire que en disant « bah moi, les valeurs, c'est ça », en fait, tu parles de toi. Tu parles pas du tout de ton entreprise. Et donc, et donc tu plaques des valeurs qui ont aucune réalité concrète pour tes salariés ou tes collaborateurs. Et donc, tu te mens un peu, premièrement, parce qu'en fait, par exemple, moi, je pourrais te dire « ah bah, moi, vraiment, ce qui compte, c'est la justice ». Et puis l'honnêteté. Ok, c'est ce qui compte pour moi, mais est-ce que c'est ce que vivent mes collaborateurs tous les jours? Est-ce que le sens que je mets derrière le mot honnêteté, finalement, c'est le sens que eux ils mettent derrière le mot honnêteté? J'en sais rien, finalement. Donc qu'est-ce que je conseille de faire, moi, dans ma méthode? C'est de partir du principe, et ça je l'ai souvent dit, tu as sûrement souvent entendu, que la culture d'une entreprise, c'est la somme des comportements qui ont lieu dans cette entreprise. Ça, c'est la vision la plus objectif que tu puisses avoir de ton entreprise. Dans notre entreprise, voilà les comportements qui ont lieu. Pourquoi? Parce que quand un comportement, c'est quelque chose qui est observable et qui n'est pas l'effet d'un jugement. Ça me dit juste, par exemple, je dis n'importe quoi, dans notre entreprise, on fait jamais de réunion. Ça, c'est observable. Il n'y a pas de réunion. Donc, comment on communique? En fait, il n'y a pas de réunion. J'ai licencié un gars parce que il avait eu des propos homophobes. Ça, c'est un comportement. Il y a une valeur derrière, mais c'est un comportement. Ou bien, à la dernière réunion d'équipe que j'ai faite, j'ai été prise à partie par une assistante commerciale et elle m'a dit « Non, mais vous comprenez rien, je vais vous expliquer comment ça se passe sur le terrain. » Alors, je suis le dirigeant. Donc, c'est quoi la valeur en face? En tout cas, il s'est passé ce comportement qui a été accepté. Et d'ailleurs, je l'ai écouté, j'étais d'accord avec elle. Qu'est-ce que c'est la valeur qu'il y a derrière? C'est moins important que le fait que dans cette entreprise, on ait le droit de faire ça. Donc, la culture d'entreprise, c'est la somme des comportements. C'est intéressant parce que des comportements, c'est objectif. C'est la première raison pour laquelle je pense que c'est une bonne définition. La deuxième raison, c'est que ça décrit beaucoup mieux que de dire des valeurs, ce que tu vas ressentir, ce que tu vas expérimenter en tant que salarié quand tu vas être intégré dans cette entreprise. Un peu comme une expérience client. Par exemple, tu es charmé par les publicités sur un produit, et puis en fait, quand tu reçois le produit, tu es déçu. En fait, on t'a menti. T'as pas eu la bonne expérience, ou à l'envers, dans l'autre sens, pardon. Tu trouves que ben, j'ai un Apple devant moi, là, tu as vu la pub, ouah, c'est des produits, esthétiquement, ils sont magnifiques, ils ont l'air solides, et puis c'est ce qu'on dit dans la pub, etc. Tu vas sur le site, ouah, les images sont fantastiques, tu es encore plus confirmé dans ta première impression. Ouais, c'est cher, mais c'est quand même super, on en a pour son argent, machin bidule. T'achètes le produit arrive, t'enlèves le packaging. Bon, moi je suis dans le packaging, hein, j'ai deux boîtes dans le packaging, et là tu fais, waouh, l'emballage, c'est le plus bel emballage que tu aies jamais vu. Papier pelliculé, blanc, pas une tache, pas aucun endroit. Le rainage, c'est-à-dire la pliure du papier, de l'encre du carton, c'est pas fripé, il n'y a pas de déchirure, etc. T'ouvres, tout coulisse bien, tout s'ouvre bien. À l'intérieur, c'est floqué. Tu prends l'ordinateur, tu l'allumes, il démarre direct, il te demande de rien installer. 3 ans après, l'ordinateur fonctionne toujours comme au premier jour, alors que quand tu avais un PC, tu étais obligé de changer tous les ans, etc. Bref, là, tu es complètement, en tant que collaborateur, tu as une correspondance complète entre ce qui a été annoncé et ton expérience. Eh ben, la culture d'entreprise, c'est pareil. On t'annonce un emballage, on t'annonce un produit, et ce que tu vis au quotidien dans la boîte, waouh, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que les comportements de tes collaborateurs, c'est l'équivalent de tes caractéristiques du produit que tu aurais acheté en tant que consommateur. Et donc, ça détermine ces comportements qui sont mis en valeur, qui sont renforcés dans ton entreprise, ça détermine l'expérience employée que ton collaborateur va avoir. Et donc, comment on fait dans la méthode CTC? Bah, c'est simple. Tu références les comportements qui ont lieu autour de toi, dans ton équipe, etc. Et puis, dans cela, tu dis, bah, moi, ça, je trouve que c'est un comportement positif, et ça, je trouve que c'est un comportement négatif. Et c'est en partant de ça que tu vas déterminer des valeurs, que tu vas pouvoir définir ta culture, que tu vas pouvoir en parler avec tes collaborateurs, que tu vas pouvoir communiquer avec les recrues que tu vas avoir sur les réseaux sociaux, etc., etc. Et je le répète, il y a des gens qui vont aller chez Apple parce que la culture d'Apple leur plaît, ou ils vont aller chez Tesla parce que la culture leur plaît davantage, ou ils vont aller chez Amazon parce que leur culture plaît davantage. Et en fait, t'as pas une seule de ces trois sociétés que j'ai citées. J'ai fait exprès de citer des grosses sociétés qui communiquent beaucoup et qui ont des cultures d'entreprise complètement différentes les unes des autres, pour dire que finalement, c'est comme ça que le choix va être fait, et c'est très bien. Donc voilà, c'était un épisode sur la meilleure culture d'entreprise. Je te résume, la meilleure culture d'entreprise, c'est celle pour laquelle tu n'as pas à mentir parce qu'elle correspond à ce qui se passe vraiment dans ton entreprise. C'est celle qui correspond le mieux possible aux aspirations de tes salariés. C'est la somme des comportements qui existent dans ton entreprise. Et c'est celle qui maximise les 5 piliers que je t'ai donnés. Maintenant, si tu veux passer à l'action, si tu sens que, bah, zut, mince, c'est pas comme ça que c'est chez moi, etc., j'ai créé cette formation qui s'appelle CTC, Crée ta culture, que tu peux retrouver dans le catalogue. Il y a un lien. Et en fait, c'est une formation qui est pas longue du tout, qui est pas chère, etc., mais pour moi, qui est assez incontournable. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Je te souhaite une très bonne semaine et j'espère que tu pourras mettre en face ta culture d'entreprise et les aspirations de tes collaborateurs. Je te dis à bientôt. Ciao.